je me demandais quel texte partager avec vous. Et finalement, je me dis, on est à la veille de Pâques et un texte qui parle de résurrection et de vie me semblait tout à fait approprié. Alors, je vais vous partager un texte qui parle de résurrection, de vie, de victoire sur la mort. Et notamment, dans l'Ancien Testament, il y en a un qui est vraiment très, très particulier et qui parle de cela. Une idée? Oui? Non? Pas tout à fait. Allez, je vais vous le lire. C'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37. Ça vous donne un indice, là? Non, je vois encore des airs dubitatifs. Il y a Francine qui fait oui, oui, oui. Chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. C'est un texte que j'aime beaucoup, qui est connu, et où le prophète dit ceci. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, « Fils d'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os. » Tu leur diras, « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici que je vais faire venir en vous un esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il y eut un frémissement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je constatais qu'il y avait des nerfs sur eux, la chair se mit à pousser, la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné, et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire. Et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Oracle de l'Éternel. Alléluia. Waouh. C'est un texte qui a du souffle. N'est-ce pas? Et je me dis qu'en cette veille de Pâques, ce texte s'imposait. Un texte qui est un texte tout à fait messianique. Ézéchiel est un prophète qui a été emmené en déportation après avoir vécu sans doute pas loin de Jérusalem, près du temple. Il était le prophète à cette époque-là et il a été emporté en déportation au temps du dernier roi de l'époque de Juda, le roi Jéhoiakim qui était roi en 597 avant Jésus-Christ. Et donc, Ézéchiel était adolescent quand il était Il a été emporté en déportation et puis il faisait partie d'une famille de lévites et de sacrificateurs. Et donc il a vécu au milieu des exilés juifs pendant sa jeunesse sur les bords du Kébar, l'un des canaux de Babylone. Il a vécu là dans une région pas forcément très désagréable. On imagine la déportation comme quelque chose de très contraignant, mais en fait, dans certains endroits, les populations déplacées trouvaient un environnement assez propice à la vie, au fait de fonder une famille, ce que Ézéchiel a fait. Et donc, il a commencé à prophétiser 5 ans après son arrivée à Babylone, et puis avant la destruction même du temple de Jérusalem. Donc, le prophète, dans ce ministère-là, dans cet environnement-là, donne une vision particulière et qui nous parle à nous aujourd'hui parce qu'elle s'adresse à Israël, soyons bien clairs. Elle parle à Israël du fait que ce peuple en errance, en déportation, est certainement habité par le sentiment d'échec, de perte de son pays, des promesses que Dieu avait faites à cette nation, et se dit, mais nous avons tout perdu, nous sommes loin, très très loin, tellement loin de ce que nous devrions être selon les promesses de Dieu au milieu de ce monde. Et le prophète a cette vision de cette vallée dans laquelle il se trouve et avec plein d'ossements qui sont desséchés sur le sol. Une vallée, semble-t-il, désertique, ce qui est étrange, puisque lui habite dans une vallée très verdoyante, et il voit des squelettes, enfin des os qui sont là, et il est dit que la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée. Et il passe au milieu de ces eaux. La vision qu'il a est une vision qui parle du principe de la vie dès lors que Dieu agit et est présent. C'est ces promesses-là faites à Israël qui s'accomplissent dans le Messie et au travers du Messie, Jésus-Christ, qui s'accomplissent dans nos vies aujourd'hui. Le message qui est adressé à Israël, c'est un même message pour nous. La vie est possible, même si ton regard sur toi, même si ce que tu vis à l'heure actuelle peut te laisser penser que tu n'es plus dans les promesses de Dieu, Dieu dit, la vie est encore possible. La résurrection de Christ, c'est une promesse de vie, non pas pour l'éternité, comme je le disais avant, pour demain, mais pour aujourd'hui et pour maintenant. Il est possible de vivre la résurrection et la vie et le retour à la vie de tout ce qui était mort en nous. À cause du péché, à cause de notre éloignement de Dieu, soit avant notre conversion, soit après notre conversion, l'Esprit Saint est là pour faire que revienne à la vie ce qui était mort. Dans les fleuves, dans la vallée du fleuve de Kébar, c'est un canal de Babylone, et on pense que c'est cela, puisque beaucoup d'exégètes, y compris hébreux, juifs, font référence au chapitre 3, verset 22 de ce même livre d'Ézéchiel, qui parle de cette vallée où ce n'est pas un désert, mais un bord de rivière, un environnement vraiment très agréable. Et la vision du prophète, par contre, est en porte-à-faux avec cet environnement, c'est que dans cette vallée-là, il voit des ossements qui sont desséchés. Un état qui est en référence avec l'état d'esprit qui habite Israël déporté. Et c'est certainement l'état d'esprit que nous pouvons avoir quand nous éloignons ou quand nous ne laissons pas la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. On a entendu une parole, sans la reprendre, mais une parole ce matin qui n'était pas forcément agréable. Alors, avec Michel, on se disait comment on fait quand il y a des paroles pas agréables. On s'est dit, est-ce qu'on fait, selon le Lévitique, un tas de cailloux pour éventuellement lapider celui qui prophétise ou celle qui prophétise dans le cas où cette parole ne nous convient pas ou on pense que c'est pas la pensée de Dieu. On a hésité avec Michel, puis on s'est dit ça serait dommage, hein. On tient un petit peu à Juliette, donc le Seigneur l'a placée au milieu de nous et j'ai envie de dire que le Saint-Esprit en elle nous a parlé ce matin. Mais nous pouvons, quand une parole est donnée, on le verra dans ce texte-là, il y a un passage qui est très étrange dans ce texte-là et qui parle justement de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, qu'est-ce que je fais? Je peux continuer à refuser que sa pensée, sa volonté s'accomplisse dans ma vie et de la laisser de côté. Ici, il était dit, tu empoisonnes par tes mots, par ce que tu dis, par ce que tu es et fais, tu empoisonnes ceux qui sont autour de toi. Waouh! Cherchez pas le tas de cailloux, il n'y en a pas. Hein. C'est dur. Le peuple d'Israël était dans cette même position, en déportation, loin, loin, loin des promesses. Ce que tu as entendu ce matin, c'est un acte de grâce et un acte d'amour de Dieu qui te dit, tu es loin de ma pensée, mais il est possible de revenir. Alléluia. Et que ce qui est mort en toi à cause de ton choix revienne à la vie. Ce n'est pas une parole dure. C'est une parole d'amour. Vous savez, ma fille, un jour, elle devait avoir 7 ans, je crois, Maïlis, et j'ai appris 15 jours après qu'elle l'ait fait, peut-être 6 ans, 6, 7 ans, elle était très jeune, et elle habite sa chambre, donnait sur le toit. Il y a un chien assis qui donne sur le toit. Je ne me suis jamais inquiété de ça. Deuxième étage. Et elle était très intriguée parce que je ne sais pas par quel hasard, il y avait plein de petits bouts de laine qui s'étaient accrochés dans les crochets des ardoises. Et donc, un jour, il y a une dame qui vient et puis qui nous parle et puis qui nous dit, vous savez, elle nous a fait une frayeur, votre fille. Je dis, ah bon, pourquoi? Bah écoutez, une après-midi, on l'a vue, elle a enjambé sa fenêtre et elle est montée sur le toit au deuxième étage. Voilà. 6 ans et demi. Et là, on a eu tellement peur. Nous, on était dans le jardin un petit peu de biais. On s'est mis à hurler, à lui intimer l'ordre de revenir dans sa chambre. Vraiment, on a crié en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là? Rentre dans ta chambre !» Et on nous a dit ça 15 jours après. J'ai passé un savon à cette femme qui a crié sur ma fille. Oh là là là! De quel droit elle pouvait crier sur ma fille? Moi, j'ai le droit, mais elle... Non, je vous rassure, je n'ai pas crié sur cette dame. Je l'ai remerciée, on l'a remerciée avec Francine. Remerciée d'avoir remis notre enfant en sécurité. La parole qu'on a entendue ce matin, c'est comme cette parole qui est adressée à Ézéchiel. C'est une parole d'amour. C'est une parole qui dit, il y a de l'espérance pour toi si tu m'entends et si tu rentres dans mes voies maintenant. Alors là, dans le psaume 63, verset 1, David dit ceci, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. » Le peuple d'Israël déporté dans cet état-là, et peut-être que nous sommes pour certains dans des moments comme cela, sentiment d'aridité, d'être sec, d'être à côté ou en dehors des promesses de Dieu. Ézéchiel 37, c'est le récit d'une vision, une parole prophétique sur des ossements desséchés qui vont reprendre vie et qui représentent le peuple d'Israël exilé. C'est une prophétie d'une actualité étonnante. Elle illustre la relation forte entre la parole et l'esprit. Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser, de parler à l'esprit créateur. La parole de Dieu adressée par le prophète Ézéchiel à l'esprit va créer la vie. La vie ne procède pas de mes paroles ou de mon esprit, mais de l'esprit de Dieu qui est présent, qui plane au-dessus des eaux et qui dit que la lumière soit. Et la lumière est, et là, la parole et l'esprit ensemble créent la vie. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos existences. Tu peux penser que tout est terminé, que tu es en dehors ou que c'est trop compliqué. La promesse de Dieu, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi et pour moi. Alors, il dit à Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel, « Fils d'homme, ses os pourront-ils revivre ?» Alors, il y a bien sûr une réponse possible à ce genre de question, c'est qu'Ézéchiel dit, les os, ils sont morts. Puis en même temps, Ézéchiel est lévite, fils de sacrificateur. Il y a là quelque chose qui est anormal de la part de Dieu. Les lévites et les sacrificateurs avaient l'interdiction d'être en rapport avec des corps ou des corps morts ou des plaies ou du sang. C'était interdit. Si vous fréquentez des personnes d'origine juive, il y a des noms. Cohen, par exemple, est un nom qui est un nom issu de la tribu de Lévi et des sacrificateurs. Katz aussi, parce que tout simplement, ces noms-là veulent dire sainteté, pureté, et ça veut dire qu'ils appartiennent. Et ces personnes, quand elles sont croyantes en temps, dans le judaïsme, ne rentrent pas dans un cimetière. Sauf s'ils sont pour officier, mais sinon ils ne rentrent pas, ils ont l'interdiction pour se garder pur. Donc, comment Dieu peut-il, alors que Ézéchiel fait partie de cette tribu de Lévi et de cette famille de sacrificateurs, comment peut-il l'envoyer même en vision au milieu des ossements? Ses os peuvent-ils revivre? Ézéchiel interdit, il pouvait se dire, Seigneur, d'abord tu me mets dans une situation qui n'est pas confortable, hein. J'ai rien à faire ici. Et en plus tu me demandes s'ils peuvent revivre. Ils sont morts et je ne devrais pas être là. Mais, fils d'homme, il interpelle Ézéchiel non pas comme lévite ou religieux, il l'interpelle comme le fils de l'homme, c'est-à-dire d'Adam, dans la réalité, c'est-à-dire un être humain. Alors, est-ce que toi, qui es un représentant de l'être humain, fils de l'être humain, est-ce que ces os peuvent revivre ? En fait, cette question-là, Dieu la pose à Ézéchiel, non pas parce qu'il peut ou qu'il doit s'appuyer sur son savoir prophétique, mais à partir de sa condition de fils. Il doit renoncer à son savoir propre en tant que prophète, en tant qu'homme qui voit, qui regarde, qui constate. Des os, est-ce que ça peut vivre? Il doit renoncer à cela et il va faire ce que Dieu attend de lui. Seigneur éternel, toi, tu le sais. Il ne se défausse pas. Il dit, il y a un moment donné, face aux limites de mon savoir, même prophétique, toi, tu sais. Et c'est là-dessus que je m'appuie. Alors peut-être que tu regardes ta vie, peut-être que tu regardes ton existence, et c'est notre habitude de faire, et puis qu'on pose des constats. Avec Francine, on a quelques constats depuis quelques années, où on se dit, ouais, c'est comme ça, ouais, hein, on n'a pas de relève, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela, etc. Et puis, il y a des fois, plus on échange et plus on se tasse, et ce n'est pas dû à l'âge, mais au découragement parfois. Mais est-ce qu'on peut aussi s'appuyer sur la fidélité d'un Dieu qui sait? Un Dieu qui sait. Et dans ta vie, est-ce que tu peux t'appuyer sur la fidélité d'un Dieu qui sait, même si ce que tu vois, tu dis, mais c'est mort, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Hein? Il y a miracle là où il y a Dieu. Amen. Hein? Vous y croyez vraiment? J'ai partagé mercredi un texte sur le livre de Jonas. C'est un livre qui est assez fabuleux, assez étrange. Et en fait, je partageais le fait que le livre de Jonas rejoint beaucoup le préambule de ce chapitre 37 d'Ézéchiel. Le livre de Jonas commence par « Vayehi ». et voici, et je suis la parole envoyée par, à Jonas par Dieu. Et en fait, dans le judaïsme, le vayehi, c'est pas simplement et je suis la parole envoyée par Dieu, non, c'est vayehi, ça fait référence à au moment peut-être le plus important pour Israël, c'est la rencontre de Moïse au buisson ardent, quand il rencontre Dieu, et que Dieu lui dit, ben voilà, je t'ai choisi, je vais t'envoyer voir Pharaon pour que tu libères mon peuple, etc. Et puis, Moïse dit, attends, qu'est-ce que tu me dis là? Mais il cherche des raisons, je ne sais pas parler. Oui, mais ce n'est pas grave. Aaron, ton frère, parlera pour toi. Ah bon, oui, mais alors, quand je vais aller voir Pharaon, vous voyez, je bégaye comme Moïse quand je parle. Et quand je vais aller voir Pharaon, je vais lui dire que je viens au nom de qui? Les Égyptiens, ils ont des dieux avec Osiris, Isis, Anubis, etc. Et puis les Babyloniens, ils ont Baal, etc. Mais le nom de celui qui m'envoie, je vais dire quoi? Et qu'est-ce que lui répond Dieu? Je suis celui qui est. Tu diras que je suis celui qui est m'a envoyé. Vous savez comment ça se dit cela en hébreu? Vayehi. Vayeha. Je suis celui qui est. Vayehi. Je suis. Je suis, c'est le nom que Dieu se donne, qu'on va traduire par Dieu, par éternel, etc. Mais vayehi. Et le livre de Jonas commence par ces mots-là. Pour les Juifs, vayehi, ce n'est pas simplement « et voici, est la parole envoyée à... ». Non, c'est vayehi, c'est un livre qui commence par le nom de Dieu, c'est-à-dire le tétragramme, le yod he vav he, les quatre lettres ou trois lettres qui représente le nom de Dieu. Et quand on voit, c'est quand les Juifs lisent ça, ils s'interdisent de le lire. Ils mettent les consonnes avec le nom d'Adonai, comme ça donne Jéhovah, et comme ça ils ne prononcent pas le nom de Dieu en vain. Donc ils ne lisent jamais le nom de Dieu. Mais quand ils voient ça dans le livre de Jonas, ils disent, tiens, Jonas, c'est un prophète, il est interpellé par la parole de Dieu, et qui est-ce qui l'interpelle? C'est Dieu lui-même! Le livre commence par le tétragramme, par le nom de Dieu. Dieu vient en irruption dans sa vie pour transformer, je dirais, ce qu'il est en train de vivre. Eh bien, ici, on est dans la même situation avec Ézéchiel. Dieu pénètre de matière brutale par une vision la vie du prophète Ézéchiel en disant, voilà, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Oula, il n'y a que toi qui le sais, Seigneur. Moi, je ne vais pas me prononcer. Tu sais, toi, ce qui peut être possible. Il y a toujours miracle là où Dieu est. Quand le « je suis » de Dieu est dans ma vie, je vous assure que c'est là que les choses changent. Ce n'est pas là où je suis, moi. Là où je suis, je fonctionne avec mes limites, avec ma volonté, avec mes désirs. Et mes désirs sont loin d'être purs. Dans tout ce que je pense et ce que je dis, c'était aussi le sens de la parole de ce matin. Mais là où est Dieu, Jonas ira à Ninive. Et Jonas fera en sorte que Ninive se convertisse. Là où Ézéchiel est rencontré par Dieu, là se produit le miracle de la révélation d'un peuple qui peut vivre à nouveau, qui va ressusciter. La vallée d'ossements desséchés a été visitée de la même manière que Dieu veut visiter nos vies et rendre vivant ce qui est mort. Alors, il y a dans ce texte, ah oui, il y a un passage exprès pour Jean-Louis. Verset 7, Jean-Louis, c'est pour toi. J'aime bien, j'ai l'impression d'être à The Voice. Cette chanson, c'est pour toi. Verset 7, c'est pour vous aussi. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction à ce verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, est-ce que d'autres ont un autre mot qui est... Non ? Tout le monde a le mot bruit ? Ouais ? Comment ? Un frémissement. Alors c'est juste après le frémissement, il se fait un mouvement, un frémissement. Mais est-ce que le mot bruit est traduit par autre chose dans vos Bibles ? Bruit, oui. Non ? En fait, dans les versions hébraïques, et notamment celle d'André Chouraki, mais dans les versions hébraïques, la traduction c'est, et je l'ai dans une de mes Bibles, « Et comme je prophétisais, il y eut une voix, et voici, il se fit un mouvement. » Il y eut une voix. C'est comme cela que c'est traduit dans la Bible de... Verset 7, André Chouraki traduit par « Je suis inspiré comme j'en ai reçu l'ordre ». C'est-à-dire, j'ai prophétisé comme j'en ai reçu. « Et c'est une voix, tandis que je suis inspiré, puis un frémissement. » Et c'est une voix. En fait, dans ce texte-là, « Il y eut un bruit », ça permet en français de comprendre un peu mieux le texte. Mais dans la réalité, au niveau hébraïque, c'est « Comme je prophétisais, il y eut une voix, et voici, il se fit un mouvement ». On se dit, mais elle sort d'où cette voix ? C'est quoi cette voix ? Un bruit. Alors, d'accord, on dit un bruit, mais en fait, ce n'est pas la réalité. Dans le texte original, c'est « il y eut une voix ». Mais c'est la voix de qui ? La voix de quoi ? Alors, une idée ? Pour bon nombre d'exégètes au niveau hébraïque, il faut comprendre ce verset-là de cette manière-là. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. C'est-à-dire que Ézéchiel se met à prophétiser. Dieu lui a dit, prophétise, parle à ses eaux. Donc, je prophétise. Et comme je prophétisais, il y eut une voix. Et voici, il se fit un mouvement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la parole du prophète se trouve la voix de Dieu. Oh, je sais que ça te ferait plaisir, Jean-Louis. Tu sais, c'est gravé pour l'éternité ce qui est dit ici. Mais c'est comme cela que les exégètes dans le judaïsme et aussi des exégètes chrétiens expliquent cette chose étrange où dans le texte il est dit je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Comme je prophétisais, il y eut une voix. Puis on se dit mais elle sort d'où cette voix ? Et en fait c'est une manière dans le texte original de dire qu'à l'intérieur de la parole du prophète se trouve la voix de Dieu. C'est quelque chose d'important quand on est confronté à la parole prophétique, de se dire qu'à l'intérieur de la parole du prophète, il y a la voix de Dieu qui parle, qui s'adresse à moi. Nous sommes une part de l'Église charismatique et pentecôtiste moderne, et j'ai un peu le sentiment qu'il y a une forme de normalité qui est posée sur les charismes et que tout à coup on considère bah, que les choses sont normales. Mais si on dit, quand je prophétise, la voix de Dieu se fait entendre à ce moment-là, et il y a un frémissement. Il n'y a pas de frémissement et de mouvement dans l'accomplissement de ce que Dieu dit parce qu'un homme ou une femme parle. Mais dans la mesure où dans ce que la voix de la femme ou de l'homme qui prophétise, il y a la voix de Dieu. À ce moment-là, c'est cette voix-là, cette parole-là qui rend les choses vivantes et qui s'accomplissent. Alléluia. Il y a miracle là où il y a Dieu. Il y a miracle là où la voix de Dieu est déposée. Mort, où est ton aiguillon ? Dans l'Épître aux Corinthiens, c'est Paul qui dira « Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ?» Eh bien, tout simplement parce que lorsque nous regardons notre vie, on peut se poser la même question. Est-ce que ces os-là vont pouvoir revivre quand je me regarde ? C'est une question qu'on peut se poser. Et comme Marthe devant le tombeau de Lazare, nous pouvons émettre nos doutes. Marthe disant à Jésus, il sent déjà. Excuse-moi, mais Seigneur, tu veux qu'on pousse la pierre, mais tu sais, ça fait quelques jours qu'il est mort. Ils sont déjà. Une manière de dire, je crois que tu es puissant. Mais là, la puissance de la mort est si grande, si évidente. La vie a quand même ses limites. Et ce texte d'Ézéchiel a une portée messianique indubitable, qui parle de la puissance de l'esprit de vie qui est en Christ. Et Paul a cette question sur la résurrection. Il dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons cette espérance pour nous. Alors, à un moment donné, je ne vais pas être trop long, mais au verset 9, il est dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts. C'est-à-dire que pour que l'esprit qui est là, dans le verset 8, il est dit, les eaux se rapprochèrent, et leur vint des nerfs, la chair s'est mise en place, la peau les a couverts, mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Pas de l'esprit humain, il n'y avait pas cet esprit vivant de vie qui est celui de Dieu. Et prophétise pour que l'esprit vienne des quatre vents. Moi, j'aime beaucoup cette formule-là. Parce qu'en fait, lorsque la vie ressurgit, l'espérance renaît. Et le peuple d'Israël se réveille de son exil. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol. Et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et je fais parole du Seigneur. La vision du prophète Ézéchiel, c'était autant où le peuple de Dieu était exilé, battu, décimé, découragé, résigné, avait besoin d'espoir et de souffle, et Dieu lui envoie ce souffle. Quand il parle du vent, c'est ce mot, le rouar, le souffle. C'est ce mot. Quand il parle d'esprit, c'est toujours le même mot, rouar, auquel il commande de redonner souffle et vie aux ossements desséchés. Esprit, vent, souffle, respiration, haleine. C'est le même mot rouar qui évoque la vie, le mouvement, la force et l'énergie. Est-ce que tu veux retrouver la vie, le mouvement? Paul dira l'être, la force et l'énergie qui respire et qui inspire. Un mot, rouar, pour parler de Dieu, de sa puissance, de sa présence, de son action. Les auteurs bibliques ne s'en privent pas. De la création, un vent souffle. Esprit de Dieu plane sur les eaux jusqu'à la Pentecôte en passant par la mort de Jésus qui remet et donne le souffle et l'esprit et à sa résurrection qui est renaissance et vie qui est dans et par l'esprit. Alors, le rouar a nécessité pour rendre vivant. Alors, c'est un auteur qui disait « Rouar » en hébreu, « n'en déplaise aux hommes », c'est un mot féminin. Ah ouais, en français, c'est un mot masculin. Mais « rouar » en hébreu, c'est un mot féminin. Et quand Ézéchiel s'adresse à l'esprit, il lui parle comme on s'adresse en hébreu à une femme, en féminin, au féminin. C'est donc dire que si nous avions continué à parler la langue des prophètes et celle de Jésus, nous aurions toujours parlé de l'esprit au féminin. Ça ne vous fait pas drôle, ça? Non, hein? Parce qu'on parle du Père, du Fils et de l'esprit. Et tout à coup, là, dans l'hébreu, c'est du féminin. Ça aurait peut-être teinté notre foi, notre catéchèse, notre théologie, je ne sais pas, notre piété, nos images. Ça aurait ouvert une brèche dans nos façons souvent toutes masculines de parler de Dieu, hein? Hein, l'homme est tellement l'homme, quand on parle d'homme dans la Bible c'est souvent l'être humain, mais nous on aime bien ça, penser que c'est l'homme, le masculin, hein, qui est en rapport à l'image de Dieu. Non, l'Esprit Saint est un mot féminin. Alors, c'est peut-être pour ça que la providence, la sainteté, la miséricorde s'accordent bien avec l'Esprit Saint. Le rouar ou la rouar. Et puis, souffle sur les quatre vents. Eh bien, Les quatre vents, c'est le vent du nord qui, dans Proverbe 25, dit « Le vent du nord enfante la pluie ». J'aime bien cette expression-là. J'écoutais le météorologue de TF1 hier soir et il se désolait de la semaine qui vient où il y aura beaucoup de pluie. Et là, il y a Denis qui fait « Ben oui, mais il a rajouté « On a besoin de pluie !» Même en Bretagne. Proverbe 25-23, « Le vent du nord enfante la pluie. Souffle, esprit qui vient du nord, des quatre coins de l'horizon. » Et prions pour que l'Éternel nous ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de nos mains. La pluie à l'opposé de la sécheresse. Elle est un signe de bénédiction, car l'eau donne la vie et arrose la terre pour la rendre productive. Donc, prions pour que le désert de notre âme se transforme en jardin arrosé. Prions pour que nos églises reçoivent la pluie de la première et de l'arrière-saison. Prions pour que ce vent du nord amène vers nous une pluie vivifiante. Le vent de l'est, dans Exode, les quatre coins, les quatre vents sont présents dans la Bible. Alors, je vais terminer avec ça. Le vent de l'est, c'est Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. De l'Orient. Un vent de l'Orient. Tiens, on est dedans aussi, nous. Un vent de l'Orient qui souffla. Je dis souvent ça aux autres pasteurs de l'Église apostolique en France. Je dis, vous savez, Paris, c'est pas dans la Bible. Istres non plus. Le Havre non plus. Mais dans la Bible, vous trouvez l'Orient. Hein. Nous, on y est. C'est un ami pasteur indien qui m'avait soufflé ça en 80. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer avec un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Prions pour que le vent de l'Est souffle et ouvre la mer de nos impossibilités, de nos incapacités face aux portes fermées, aux situations inextricables que nous pouvons connaître dans nos vies personnelles, nos vies de couple, nos vies familiales, nos vies professionnelles. Prions pour que ce vent d'Est vienne et ouvre nos vies, ouvre ce qui est fermé. Prions pour que Dieu envoie le vent d'Orient qui aplanit des chemins montueux, qui monte, qui rompe les portes des reins et brise les verrous de fer. Souffle vent de l'Est et ouvre-nous un passage dans la mer. La mer, c'est souvent dans la Bible une représentation du monde et de l'humanité sans Dieu. Eh bien, au milieu de là, les chrétiens, l'Église, sont appelés à tracer leur route comme Moïse, poursuivi par les Égyptiens et Pharaon, et cette mer rouge qui s'ouvre en deux. Oui, il est possible que ce vent de l'Orient souffle. Vent du Sud, Luc 12, 55. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Prions pour que le vent du Sud souffle, pour réchauffer nos âmes, embaumer nos vies de ces parfums agréables. Dans le cantique, le vent du sud, c'est aussi le vent d'Otan. Et dans le cantique des cantiques, chapitre 4, verset 16, « Viens, Otan, souffle sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. » Souffle, vent du sud, réchauffe nos âmes, fais voler toutes les semences de vie, afin qu'elles fécondent les terrains des cœurs qui nous entourent, et qu'exhale ainsi tous les parfums de vie qui donnent la vie. Est-ce qu'on veut que ce vent-là souffle sur nos vies? Et le vent d'ouest, l'Éternel, Exode 10-19, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Prions pour que le vent d'ouest emporte tout ce qui ronge nos vies et nos âmes et qu'il précipite nos soucis au fond de la mer. C'est possible. C'est ce que l'Esprit veut faire. Souffle vent d'ouest et débrasse-nous de toutes les plaies qui rongent nos vies peu à peu et nous empêchent d'aller de l'avant. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle des quatre vents. Seigneur, merci pour ta parole qui nous est donnée, même parfois quand elle nous dérange, mais elle nous est donnée afin que nous puissions vivre et vivre en plénitude. Souffle, Esprit de Dieu, viens des quatre vents et souffle sur nos vies. Que ce qui est mort revive. Que ce qui est blessé, meurtri, soit guéri par toi. Accomplis ton œuvre, Seigneur, afin que nous puissions nous tenir debout devant toi. C'est là notre prière. Amen.